Je suis avec Stéphanie Barbet et Luc Péter qui se sont réveillés matinalement en ce week-end pour nous parler, et c'est pour la bonne cause, de Dreamers, leur nouveau documentaire. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, vous aviez déjà signé un documentaire qui partait aussi aux États-Unis, à la frontière, c'était il y a 10 ans, Broken Land, qui nous entraînait un peu sur la trace des migrants que l'on ne rencontrait pas, comme les Américains qui suivaient leurs traces à la frontière, qui étaient à la fois inquiets, préoccupés, parfois en colère. Là, c'est une autre facette de cette immigration que l'on suit avec Dreamers. Dreamers qui nous entraîne auprès d'un trentenaire mexicain qui est arrivé aux États-Unis avec ses parents et sa fratrie. Donc des parents qui espéraient atteindre un Eldorado aux États-Unis. Malheureusement, malgré toutes ces années passées aux États-Unis, après avoir grandi aux États-Unis et y travaillé, il est toujours sans papier. Donc on le voit, on le suit. Il est entre le travail, la famille, l'amour et l'espoir peut-être un jour d'avoir les papiers. Donc ce sont diverses facettes d'une même réalité. Vous aviez décidé de poursuivre votre quête comme vous l'aviez fait il y a 10 ans. Comment est venue la rencontre avec Carlos, celui que l'on suit dans votre film Dreamers?
Alors, je vais commencer. Quand on a fait Broken Land, on a donc décidé de rester que du côté de la frontière américaine, d'être avec les Américains et les habitants de cette frontière, qui voyaient, comme vous l'avez dit, un peu les traces, les fantômes de ces migrants qui passent, du Mexique aux États-Unis. Et puis, on s'est dit que c'était quand même très intéressant et important de rencontrer ces gens. Parce que passer la frontière, c'est une épreuve difficile, parfois douloureuse, parfois fatale. Mais une fois qu'on a passé, ça ne veut pas dire qu'on a atteint justement l'Eldorado. Et donc, on a été à la rencontre de pas mal de gens qui ont été sans papier, illégaux aux États-Unis. Et parmi ces personnes, on a rencontré Carlos en 2012, donc il y a 12 ans. Et il nous a raconté toute son histoire dans une petite maison au sud de Chicago, dans une banlieue assez dangereuse. On n'avait pas tellement conscience de ça, mais il était dans sa maison où tout était fermé, les fenêtres un peu cloîtrées. Et pendant 1 heure, il nous a raconté l'histoire de sa famille, avec la même voix, un peu la même intonation, la même assurance. Et on a était fasciné par ce récit. Et quand Trump a été élu, on s'est dit il faut absolument qu'on lui donne la parole et on est reparti pour le contacter et on l'a rencontré 5 6 fois avant le tournage.
Oui, c'est vraiment en fait quelque chose qui on a été très très touchés par la question des Dreamers. C'est vrai qu'on était sensibilisés à la question de l'immigration aux États-Unis et on a découvert au moment de Brooklyn la question des Dreamers, c'est-à-dire ces jeunes qui suivent leurs parents pour aller aux États-Unis et qui deviennent sans papier involontairement. Et on s'est dit que la seule façon de vraiment rendre compte de cette tragédie, c'est de faire un film. Parce que le cinéma, c'est le pouvoir de l'empathie, le pouvoir du ressenti. Et c'est pas juste des chiffres, parce que bien sûr, 2,5 millions de Dreamers, c'est énorme, mais tant qu'on passe pas du temps au quotidien d'un d'entre eux, on peut pas trop se rendre compte de vraiment de l'ampleur du drame. Et Carlos, bien sûr, c'est un portrait de lui et de ses frères, mais c'est un personnage qui nous a semblé d'emblée emblématique du sort de millions d'autres jeunes comme lui.
Alors, Stéphanie, Luc, je rebondis sur vos propos. Dreamers, le titre, quand on l'entend comme ça, si on ne lit pas le synopsis du film, on se dit, tiens, c'est onirique, c'est même quelque chose peut-être qui nous invite au rêve, au voyage. Dreamers, c'est vraiment l'appellation qu'on leur donne. Est-ce qu'on veut les cantonner au fait qu'ils rêvent d'avoir un jour les papiers, peut-être? C'est surprenant ce nom pour toutes ces personnes qui ont grandi aux États-Unis mais qui restent illégales. Et là, grâce à votre documentaire, ils ont une visibilité. Ils ont une voix à travers celle de Carlos. Et on comprend qu'en fait, la vie continue, tant bien que mal, malgré la difficulté de leur statut. Parce qu'on les voit, au niveau de la famille, ils sont très solidaires. Ils sont très proches, malgré ce statut qui est totalement bancal.
Alors, Dreamers, ça vient du Dream Act, en fait. C'est une appellation qui veut dire, en fait, Development Relief and Education for Alien Minors. C'était un projet de loi. qui a été proposée en 2001, mais qui a été refusée en 2010, à 5 voix près au Sénat. Et c'est resté, du coup, l'appellation Dreamers. Mais donc, nous, on a joué, évidemment, sur ce mot, parce qu'en fait, si autant le film souligne la peur, en fait, qu'ont ces jeunes face à la question de l'expulsion, parce que ça leur pend au nez tous les jours, ça souligne aussi leur courage, en fait, et leur persévérance dans ce système.
Oui. Absolument. C'est vrai que Dreamers, c'est quand même aussi par rapport au rêve américain. C'est-à-dire que l'Amérique, c'est un pays d'immigration. Il y a beaucoup de gens qui vont en rêvant d'améliorer leur vie. Comme ça a été le cas, en fait, des parents de Carlos qui sont partis là-bas, d'une part pour rejoindre la famille de la mère, parce que presque tout le monde était là-bas, mais aussi en espérant d'avoir une meilleure vie. La famille de la mère, oui, racontait peut-être un peu des mensonges, dans le sens où il racontait que la vie à Chicago était bien meilleure qu'au Mexique, et puis c'était pas forcément le cas pour eux.
On voit au niveau de leur migration qu'il y a une chute dans l'ascenseur social, c'est-à-dire qu'ils avaient une excellente situation au Mexique.
Oui, alors c'est vrai que la mère était enseignante, le père travaillait pour l'État, une entreprise d'électricité. Ça a été un grand choc quand ils sont arrivés aux États-Unis. Mais c'est vrai que Carlos, on a fait plusieurs séances aussi au cinéma avec son intervention. Il nous soulignait aussi la précarité quand même parfois de la vie au Mexique. Peut-être que l'Amérique reste encore cette espèce de, comme disait Luc, de rêve, en fait, d'une vie meilleure. Et la mère, quand elle est partie rejoindre sa famille, parce que c'est des familles très, très soudées, en fait, et tous ses frères et sœurs étaient aux États-Unis, et qu'elle avait envie d'être seule au Mexique, elle avait quand même l'espoir, dans le fond, d'offrir à ses filles une vie meilleure.
Oui, je crois que c'est vraiment ça. C'est ses parents qui se sacrifient un peu en se disant « nos enfants auront une vie meilleure ». Et puis ils partent quand même sans savoir que ces enfants qui, étant mineurs, ils sont protégés par la loi et donc ils sont pas expulsables. Quand ils se deviendront adultes et majeurs, tout d'un coup, ils ont le même statut que les parents, c'est-à-dire qu'ils deviennent illégaux et qu'on peut les renvoyer.
Oui, c'est un statut de no man's land terrible. Et par contre, on sait pourtant que les États-Unis, on pense à tous les États du centre des États-Unis, peut-être que c'est votre prochain film, où la main-d'œuvre agricole est essentiellement mexicaine. Donc les États-Unis ont besoin de ces personnes.
Oui, oui, absolument. Et en fait, c'est ça qui se passe, c'est que aux États-Unis, on dit « cheap food is cheap labor ». Donc c'est vrai que l'Amérique a besoin de cette main-d'œuvre bon marché, elle en dépend, absolument. Et en même temps, l'Amérique doit montrer une politique d'immigration forte, donc... paradoxalement, par exemple, c'est sous la présidence d'Obama qu'il y a eu l'expulsion. Donc, c'est le système juridique et le système économique aux États-Unis ne cohabitent pas du tout, en fait. Enfin, plutôt cohabitent, mais ne parlent pas entre eux. Par exemple, les Dreamers et les papiers doivent payer leurs impôts aux États-Unis.
Oui, c'est un statut vraiment paradoxal. C'est comme si on voulait en profiter un maximum.
Absolument, et il y a un véritable vide juridique pour ces Dreamers dont la question ne se résout jamais, alors que la population américaine en général est plutôt en faveur de la régularisation de ces jeunes, parce que très empathique en fait par rapport au sort de ces jeunes, parce qu'évidemment des enfants qui ne choisissent pas, qui suivent leurs parents, évidemment c'est quelque chose de bouleversant. Donc, mais c'est vraiment au niveau des administrations et au niveau du politique, que ces lois ne passent pas ou tout coin.
Alors là, je rebondis à nouveau sur vos propos, Stéphanie. Vous dites qu'il y a aussi de l'empathie, de la compassion de la part des Américains, du moins d'une partie de la société. Et ce film nous suscite, quand on le voit, votre film, de l'empathie, de la compassion. Et on admire aussi le côté tellement posé, tellement calme de Carlos, qui nous raconte en fait des choses qui pourraient nous mettre en colère. Mais il reste très posé, il n'y a ni misérabilisme, ni victimisation.
Oui, ben c'est une des choses qui nous a tout de suite paru intéressante avec Carlos, et d'ailleurs qu'on fait des repérages On en fait beaucoup avec Stéphanie, on passe beaucoup de temps en repérage pour rencontrer les gens, chercher les lieux, parce qu'on fait des films assez écrits. Et ce personnage, il nous a tout de suite plu, justement par ce côté où il n'était pas dans la plainte et c'était pas la misère totale, ni au Mexique quand ils sont partis, ni dans sa vie, parce que lui, en fait, même s'il est sans papier, il a un très bon travail et un bon salaire, et donc il s'en sort plutôt bien. Et c'est ce contraste et ce paradoxe qui nous a beaucoup intéressé chez Carlos.
Et Carlos, c'est vraiment un héros du quotidien. C'est quelqu'un qui ne se laisse jamais abattre, se relève après chaque fois qu'il se prend un obstacle. C'est quelqu'un qui a une résilience et un courage immense. Et c'est ça qui nous a plu, parce que ce que ça montre aussi, c'est que quelque part, il a cet esprit battant américain. En fait, il se considère aussi, lui, américain. Et en fait, c'est ça le paradoxe, c'est qu'il est, il est tout, il est américain, sauf sur papier, en fait.
Oui, et puis je trouve que ça contraste avec aussi l'image que les républicains ou l'extrême droite ici donnent de ces immigrés comme des profiteurs. Et en fait, ce n'est pas du tout des profiteurs, c'est des gens qui essayent de s'intégrer beaucoup, qui essayent de travailler, qui font très attention à faire tout très bien parce qu'ils savent justement que c'est dangereux s'ils font la moindre petite erreur qui peut être... ne serait-ce que d'avoir un phare de leur voiture qui fonctionne pas. Et donc, c'est des gens qui sont très, très, en fait, intégrés et qui aident la société américaine à être ce qu'elle est.
Ils sont pleinement intégrés, ils font très attention d'être toujours dans les jalons de la société. Par contre, ce qu'on comprend avec votre documentaire, c'est qu'un des frères a été expulsé. Donc, ça impacte toute la famille au sens large, toute la constellation familiale.
Oui, c'était vraiment l'objectif du film. En fait, c'était de construire le film sur l'absence de ce frère, de ne jamais le montrer, de juste l'entendre à la fin du film. C'était vraiment pour montrer à quel point une expulsion affecte l'ensemble de la famille et comment en fait, ça passe au niveau des grands-parents, des enfants, des frères. C'était vraiment pour montrer mesurer l'ampleur de la tragédie.
Oui, notamment aussi avec le fils. Donc, ce frère qui a été expulsé, il venait d'avoir un fils qui avait quelques mois, qui s'appelle Freddy. Et là, dans le film, on retrouve Freddy adolescent, qui a 15 ans, et qui n'a jamais vraiment vu son père, et qui n'a pas vraiment de relation avec son père. Mais en même temps, on sent que cette absence, elle a affecté toute sa famille, et lui avec. Et ce drame... qui est vraiment terrible parce que, en fait, Freddy, comme il est né aux États-Unis, il est américain. Et donc, ces lois font que, on punit, en fait, un citoyen américain, Freddy, en renvoyant son père, quoi.
Oui, Stéphanie.
Et c'est un paradoxe.
Stéphanie Pardon. Et Luc, je vous en prie. Stéphanie et Luc, justement, on comprend aussi que la décision était commune quand la famille est partie, les parents ont décidé d'offrir un meilleur avenir à leurs enfants, mais que le père de la famille, lui, préfère retourner au Mexique.
Le père a très mal vécu, justement, ce déclassement. En fait, il est rentré dans des boulots très durs, très physiques. Et en fait, il l'a très mal vécu. Et effectivement, il est parti. Il est devenu violent. Enfin, il y a eu un drame au sein de la famille. Et donc, il est reparti. Absolument au Mexique.
Vous avez choisi pour mettre en relief, mettre en exergue votre protagoniste, le noir et blanc, ça donne une épure à l'image et ça permet aussi peut-être de se centrer complètement sur Carlos que l'on suit. C'était un choix esthétique qui était déjà au moment du projet du film.
Oui, oui, alors c'était vraiment un choix à l'écriture, on s'est très vite décidé pour le noir-blanc. Et c'est tout à fait ça, c'est que le film est construit sur cette voix de Carlos qui est en fait construite à partir de tous les interviews, les discussions qu'on a eues avec Carlos. Et puis Stéphanie a réécrit une voix pour en faire une dramaturgie pour le film plus solide. Et puis Carlos a relu sa voix à la fin du montage. Et le noir-blanc nous semblait la bonne manière pour rester dans sa tête le plus possible, pour pas être distrait par les couleurs, par des choses qui pouvaient distraire. Et l'autre raison, c'était aussi pour être plus atemporel, parce qu'en fait, la situation de ces Dreamers ne bouge pas depuis des décennies, que ce soit les démocrates ou les républicains. En fait, les lois ne passent pas et leur statut ne change pas. Et le noir-blanc permet d'être atemporel. Donc cette histoire, elle, c'est la même il y a 10 ans, aujourd'hui ou probablement dans 10 ans.
C'était aussi une façon de renforcer la dramaturgie du film, parce que c'est un film qui oscille entre peur et espoir, en fait, donc on peut jouer avec les contrastes. C'était aussi la façon de souligner, en fait, le travail la vie dans l'ombre, en fait, de ces gens, en fait.
Luc, vous avez mentionné la voix, l'importance de la voix. Justement, la voix off de Carlos nous accompagne. Déjà, les premières images du film, on a l'impression que ce n'est pas forcément la réalité, ce n'est pas un documentaire, c'est presque irréel. Et après, cette voix, il y a un côté hypnotique. C'est presque comme si on entrait dans sa tête, dans ses pensées. C'était le but recherché, n'est-ce pas?
Oui, complètement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a vu pour la première fois, comme disait Luc, Carlos, quand on l'a rencontré la première fois, et qui nous a parlé pendant 1 heure, on a été vraiment complètement subjugués par le timbre de sa voix, le rythme de sa parole, la façon dont il racontait. C'était vraiment un narrateur né, quoi, naturel. Et on a essayé de retrouver l'intensité de cette voix, en fait, de ce moment qu'on a vécu avec lui en reportage, de le retrouver, de le recréer, en fait, pour le film. Alors, il a fallu le réécrire, évidemment, pour construire la dramaturgie du film. Mais en fait, c'était vraiment l'objectif d'être dans sa tête, dans son point de vue, tout le long du film. Et voilà, d'où l'écriture de sa voix à partir de ses mots, en fait.
Stéphanie, vous parlez de réécriture. On imagine que c'est un travail, vous êtes les deux cinéastes, scénaristes, vous travaillez à quatre mains, ça fonctionne comment entre vous?
On a même travaillé avec aussi une autre personne, Cécile Vervartig, qui était donc une... comment on dit,
coach.
Et en fait, on a, j'écrivais, je faisais des propositions, je montrais à Luc, on échangeait. On a vraiment un travail de ping-pong, de binôme, on échange constamment. Enfin, c'est pas notre premier film ensemble.
Justement, donc il y a une connaissance réciproque, une émulation.
Oui, vraiment. On a un échange constant à chaque étape de création.
Oui, que ce soit pendant les repérages, tournages, au montage, c'est vrai que le travail du documentariste peut être très solitaire, parce que justement on passe beaucoup de temps dans les recherches, dans les repérages, dans l'écriture, le montage aussi est une étape très très longue en documentaire. Et avec Stéphanie, ce qui est très très beau, c'est que justement, on arrive à discuter en permanence de ce qu'on découvre, de ce qu'on veut faire, et à tirer le film le plus loin possible. Et justement, on essaye de faire un peu des films radicaux d'une certaine manière. Broken Land, en restant que du côté américain et en ne voyant jamais ces migrants dont tout le monde parle, a peur ou essaye d'aider, mais on les voit jamais. Et puis là, avec Carlos, d'être vraiment dans sa tête, c'est son récit. Et cette manière d'être assez radicale, en fait, le fait d'être deux nous permet d'aller vraiment le plus loin possible, parce que voilà, c'est un vrai travail de construction et on est très complémentaires pour ça.
Et à propos de travail de construction, vous avez choisi une bande-son qui a été élaborée à la Chaux-de-Fonds par Louis Juncker. Vous pouvez parler de ce choix?
Oui, on avait avec Broken Land, on avait travaillé avec Franz Streichler sur une musique plus électronique, et là, on s'était dit qu'on avait envie de quelque chose de plus organique, en fait, de plus épuré, et donc on a très vite travaillé avec Louis. On aime bien travailler avec les musiciens en amont de nouveau du tournage. Donc pour les repérages, on part avec des musiques qu'ils ont composées, on garde des sons, ces mélodies en tête pendant le repérage. Et puis ensuite, on les pose sur le film au montage, ils viennent au montage, ils collaborent, ils réécrivent. Enfin, on a de nouveau aussi une vraie collaboration régulière, en fait, avec eux à chaque étape du film.
Oui, et puis c'est vrai, autant Franz Dreischler pour Brockenland que Louis Hooker, c'est des gens avec qui il y avait une collaboration musicale, mais aussi sur le fond du film. C'est-à-dire que dans les deux expériences, ils étaient très très touchés par le film qu'on était en train de faire. Et donc, il y a eu énormément d'allers-retours. Ils venaient voir le montage, on disait, ben, il faudrait une musique plus comme ci, plus comme ça, à ce moment-là. Et puis, ils nous renvoient direct des musiques derrière. Et c'est une collaboration, justement, avec des musiciens qu'on choisit parce qu'aussi, ils sont très engagés. Ils sont très engagés dans le projet et ils sont prêts à refaire 20 fois les choses si on est pas satisfait, que ce soit de leur côté ou d'une autre.
Oui, donc on comprend que leur composition est vraiment appuyée sur les images que vous leur fournissez et sur la thématique.
Oui, absolument.
Oui. Alors, on est parti pour Louis Hooker avec des morceaux qui existaient, pas mal dans ces disques qu'on aimait. Et puis après, on disait, mais ce morceau, il nous faudrait que cet instrument, ou plus lent, ou plus mystérieux. Et donc, c'était une réinterprétation de morceaux préexistants pour la majorité des titres.
Alors, pour revenir, avant de passer justement à la sortie du film, pour revenir quand même à la thématique des enfants migrants qui suivent leurs parents bien par défaut, c'est très actuel. On pense à ce qu'a fait Trump quand il emprisonnait les enfants séparés de leurs parents, des enfants en bas âge même, qu'on voyait derrière des barreaux. J'imagine que la situation est toujours totalement actuelle.
Voilà, le statut des Dreamers n'a absolument pas changé. Moi, je ne peux pas me prononcer par rapport à ce qui se passe actuellement à la frontière parce que je ne suis pas renseignée, pour être très honnête. Mais en ce qui concerne les Dreamers, rien n'est pour l'instant encore résolu. Comme on le disait, en fait, les administrations passent et les projets de loi sont chaque fois articulés, mais ne sont jamais légiférés, enfin, ratifiés. Et donc, ils sont toujours dans la même situation. Il y a eu tout un projet aussi qui s'appelle DACA, qui a été instauré par Obama, qui était par décret présidentiel, qui a été ensuite abrogé par Trump, et il y a une tentative de restitution par Biden. Donc c'est tout le temps, le système d'immigration aux États-Unis est ce qu'ils appellent un broken immigration system. Et on va voir avec cette réponse ce qui va se passer, mais c'est toujours un grand enjeu. Il y a beaucoup, on fait beaucoup de bruit autour, mais dans les faits, rien ne se passe.
Ça reste assez statique.
C'est ça.
Oui, tout à fait.
Et par rapport justement à la campagne électorale qui bat son plein, vous avez pu récolter aussi peut-être des témoignages ou des opinions qui restent
Pas vraiment.
Bah,
Pas
c'est-à-dire.
vraiment par rapport en tout cas, au personnage du film. On sait que quand on a tourné, parce qu'en fait, on a fait le tournage en février-mars 2020. C'était Trump comme président. Et puis il y a eu le Covid. Donc on a dû interrompre le tournage pendant une année et demie. Et quand on a fait le deuxième tournage, c'était Biden. Et ce qu'on a surtout ressenti, c'est les sensations de Carlos et de sa famille, où quand même sous Trump, ils étaient beaucoup plus tendus et beaucoup plus angoissés qu'après. Mais après, c'est un peu plus justement des ressentis qu'on peut trouver chez eux qu'un discours politique.
Bon, il faut dire une chose, c'est que Los et sa famille vivent à Chicago. Et Chicago, comme New York ou Los Angeles, c'est des villes qui se sont décrétées des villes sanctuaires. C'est-à-dire, c'est des villes qui pratiquent une politique plus ou moins tolérante par rapport aux sans-papiers. C'est-à-dire que la police de la ville ne va pas forcément collaborer et appeler systématiquement les services d'immigration s'ils étaient amenés, par exemple, à arrêter un sans-papiers. Donc, c'est vrai que c'est pour ça aussi une raison pour laquelle que la famille de Carlos lui-même, enfin, sorte le moins possible de la ville de Chicago.
Par sécurité, puisqu'il y a une politique qui est quand même plus bienveillante
Voilà.
à leur égard.
Exactement.
Alors, on comprend que, évidemment, tout peut basculer selon la nouvelle personne élue d'ici quelques semaines à la Maison Blanche. On imagine que vous avez pu filmer sans trop de contraintes, vous avez pu être libre quand même, puisque vous restiez au niveau de Carlos et de son entourage. Vous avez rencontré quelques difficultés pour filmer dans certains endroits.
Aux États-Unis, c'est très compliqué de filmer parce qu'il faut des autorisations pour tout. C'est-à-dire dans les lieux publics, c'est assez compliqué. Mais à partir du moment où on était dans la famille de Carlos, comme on la connaît très bien parce qu'on est allé très souvent l'y voir, en fait, sans caméra. Donc à ce niveau-là, on était très libre. Mais aux États-Unis, ce qui est compliqué aussi, c'est que c'est des grandes distances, c'est des villes très compliquées, les gens sont très occupés. Donc c'est vrai que c'était un tournage complexe et c'était bien d'être deux.
Luc, vous voulez ajouter quelque chose sur les conditions de tournage?
Non, mais c'est vrai que c'est voilà, c'est des gens qui travaillent tous les jours très intensément. Comme on sait, aux États-Unis, il y a très peu de vacances. Mmh. Il y a les distances. C'est vrai que Carlos fait 1-2 heures de voiture tous les matins et tous les soirs pour aller au travail et rentrer. Et du coup, d'arriver nous avec nos contraintes de cinéaste en demandant parce qu'en fait on a suggéré les séquences comme c'était un film très écrit à partir de cette voix off. On voulait pas faire de l'illustration, on voulait vraiment trouver des séquences qui résonnent avec ce que Carlos disait dans sa voix. Et donc on a suggéré à Carlos et à sa famille certaines séquences, et c'était assez compliqué à les mettre en place parce que il y avait toujours quelqu'un qui était disponible, d'autres pas, et voilà. Mais sinon, je dois dire que les Américains, et on avait eu ça sur Broken Man aussi, c'est des gens, quand ils sont devant la caméra, ils sont assez incroyables parce que ils ont un côté très très naturel, ils oublient tout de suite ce qu'il y a à la caméra, et une fois qu'ils s'engagent, ils s'engagent vraiment. Ils remettent jamais en cause. Pourtant, le film qu'on fait, il est quand même très différent des documentaires qu'ils peuvent voir à la télévision aux États-Unis. Ils voyaient que c'était assez spécial ce qu'on faisait, mais jamais ils ont remis en doute leur engagement pour le film. Et ça, c'est quelque chose de très beau.
De très appréciable.
Je dois dire.
C'est très appréciable pour vous aussi.
Oui, mais totalement. C'est surtout en fait que ce qui a été très beau, c'est que Carlos s'est vraiment aussi presque accaparé du film. Il y a un moment donné vraiment, où il a senti que c'était pour lui une façon de raconter son histoire et de parler de l'enjeu de tous ces dreamers en fait. Donc il a saisi cette opportunité pour transmettre un message en fait. Et ça nous a beaucoup ému en fait.
Vous avez tous les deux fait les sciences politiques avant de vous engager dans le cinéma. On imagine que ce choix de formation, sciences politiques, vous a réuni aussi dans ce travail que vous faites sur, entre autres, les migrants aux États-Unis.
Oui, absolument. Oui, bien sûr. Bien sûr, je pense que ça fait partie de notre formation. Mais c'est vrai que, après, très vite, nous, ce qui nous intéresse, c'est de magnifier, de faire du réel du cinéma, en fait. C'est de partir de situations très concrètes et les tirer vers. Pour pouvoir susciter l'empathie ou le ressenti.
Oui, c'est que justement, en mêlant le cinéma et sciences politiques, on s'est un peu éloigné de l'analyse théorique, ou même beaucoup éloigné. Mais pour nous, c'est très important de parler de thématiques qui nous tiennent à cœur. Et en même temps, c'est d'en parler d'une autre manière. Parce que voilà, ça permet aux gens, aux spectateurs, d'avoir tout d'un coup un autre point de vue. Et quand on fait les questions-réponses après les projections là ces derniers temps, c'est fou ce que les gens sont très très émus. Et pourtant, ils entendent tous les jours des drames autour de la migration, mais ils sont émus par tout d'un coup de découvrir cette thématique à travers vraiment une autre manière de la raconter. Et c'est ça qu'on cherche avec Stéphanie.
Oui, tous deux, vous arrivez à donner beaucoup d'humanité, beaucoup d'humanisme même. Et forcément, ça suscite des émotions auprès du public, de la compassion, de l'empathie. Votre film, vous l'avez déjà présenté lors d'avant-première. Vous allez le présenter, il y aura une première en Suisse romande le 16 octobre. Après, j'ai vu qu'il y avait une coproduction. Donc, vous allez aussi le présenter en France, en Allemagne ?
Alors, oui, on fait des coproductions. On aime beaucoup faire des coproductions parce que ça permet au film d'être beaucoup plus diffusé, notamment à travers les TV. Et là, c'est une coproduction entre la RTS TV Suisse, mais
Arte
aussi
ici.
Arte et SWR. Et donc, par ces télévisions, il va être diffusé, voilà, sur ces trois territoires. En Allemagne, il y a eu une sortie au début de l'année, parce que le film était prêt. Et puis nous, en fait, on a décidé avec Stéphanie d'attendre cet automne, justement à cause des élections américaines, en se disant que c'était une thématique qui allait intéresser les gens à ce moment-là. Et on a retenu en fait la sortie du film jusqu'à maintenant. Et je pense qu'on a bien fait parce que on sent que les gens sont très à l'écoute de ce qui se passe aux États-Unis et des problèmes d'immigration qu'il y a en Europe.
Et par rapport à la présentation aux États-Unis, est-ce que ça a déjà eu lieu? J'imagine auprès de la famille de Carlos et de Carlos.
Alors, on a eu plusieurs festivals aux États-Unis où il a été très très bien reçu. Et puis, on avait juste décidé avec Carlos pour protéger quand même la famille de ne pas le montrer à Chicago, dans le festival de Chicago qu'il le demandait. Par contre, on a fait une projection privée pour Carlos, sa famille, ses amis. Il y avait une centaine de personnes il y a une année à peu près. Et ça a été très très beau parce que d'une part, c'était la première fois qu'ils se voyaient comme ça sur grand écran, tous ensemble. Et Carlos était vraiment a pu aussi redire que ce film, c'était pas pour raconter son histoire à lui, que son histoire n'était pas plus dramatique que les autres. Au contraire, il y a beaucoup d'histoires bien plus dramatiques. Mais c'était d'avoir une espèce de reconnaissance de tous ces millions de personnes qui ont ce statut. Et ça, c'est vrai que le public aux États-Unis reconnaît vraiment ça.
Oui, donc vous parlez de reconnaissance. Stéphanie, vous disiez en début d'entretien qu'il y a 2,5 millions de Dreamers. Donc ça leur donne une réelle visibilité grâce à votre documentaire. Et ça, c'est vraiment précieux, j'imagine, pour eux, mais aussi pour le public, de prendre conscience de ça ne reste pas qu'un chiffre totalement juste absolu. Ça reste une réalité qui est vraiment incarnée par Carlos et par sa famille. On vous souhaite en tout cas qu'il y ait beaucoup de public qui soit au rendez-vous justement le 16 octobre et par la suite. Vous travaillez déjà sur un nouveau projet. Pour l'instant, vous accompagnez Dreamers.
Non, moi je rentre juste de tournage. Là, il y a même pas une semaine en Alaska pour mon prochain film que Luc va produire et qui est une thématique complètement différente parce que là, je m'intéresse en fait à des totems sculptés par les Tsimshian, qui sont une tribu autochtone du sud-est de l'Alaska. Voilà, et qui sont liés en fait à des totems qui ont été achetés dans les années 50 pour le musée d'ethnographie de Genève par mon arrière-grand-père, et je suis voir de ces totems.
Donc vous êtes très impliqué
Oui.
personnellement. Et Luc, vous
Voilà.
travaillez déjà sur un autre projet?
Alors moi, je produis celui-là et je suis plutôt sur la production pour l'instant parce qu'on a beaucoup de films, des films passionnants et c'est vrai que comme producteur, je m'engage beaucoup sur le côté artistique des projets. On fait beaucoup de premiers et deuxièmes films et j'aime beaucoup ça. Donc, c'est une implication pas de co-auteur, mais disons, je suis vraiment très très proche et de l'écriture et du montage de ces films. On a d'ailleurs un autre film qui sort dans les salles qui s'appelle Riverboom
Qui est
fin
excellent.
octobre. Voilà, qui est aussi une manière de parler de la politique très, très nouvelle et très
Avec
différente sur l'Afghanistan, en fait.
beaucoup
Ouais.
d'autodérision malgré le contexte.
Tout à fait. Et puis, ce que je voulais rajouter, c'est que la projection de Dreamers au Cinélux mercredi prochain, le 16, il y aura une discussion en direct avec Carlos à l'issue de la projection. On a fait ça avec Stéphanie mercredi dernier à Lausanne au cinéma Bellevaux et c'était vraiment magnifique quoi, et pour le public et pour nous, de pouvoir parler avec Carlos en direct.
Vous faites bien de le rajouter, Luc. Alors merci Stéphanie, merci Luc d'avoir été avec nous en ce samedi matin. Et merci particulièrement Luc d'avoir assumé la casquette de technicien son, sinon cet entretien n'était pas possible. Donc mille merci.
Merci, en tout cas.
Merci à vous deux et bon succès à Dreamers.
Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée, au revoir.
Au revoir.